France Culture.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
18h15, cette semaine, à l'occasion des commémorations des attentats du 13 novembre, nous nous intéressons au rôle de maire lors d'un attentat. Quel est son rôle lorsque sa commune est frappée ? Comment travaille-t-on à panser les blessures ? Comment agir sur la prévention de la radicalisation ? Adrien Toffolet est allé poser ces questions à Michel Lebouc, maire communiste de Magnanville, en banlieue parisienne. Le 13 juin 2016, un terroriste assassinait chez eux deux policiers, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, au nom du groupe État islamique. Michel Lebouc était élu depuis à peine 2 ans. Il vit depuis, comme tous les habitants de Magnanville, avec cette cicatrice.
Je vous en prie.
Ouais, je suis avec la presse, là, je te rappelle tout à l'heure.
Un début de mois de novembre agité pour Michel Lebouc.
Cette nuit, j'étais avec les services des sapeurs-pompiers de Magnanville. J'ai eu un incendie criminel sur des infrastructures de la commune. Et pas de chance, c'est dans la même rue où a lieu l'attentat.
La rue en question ressemble à n'importe quelle petite rue de pavillon de banlieue, l'allée des Perdrix, qui n'a jamais vraiment quitté l'esprit du maire.
Quand je suis arrivé à 22h30 sur les lieux de l'incendie criminel, ça m'a perturbé, ça m'a remémoré en fin de compte ce que j'avais vécu.
C'était il y a 9 ans, l'assassinat de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider chez eux, policiers dans les communes voisines que l'élu connaissait personnellement.
J'étais à une réunion sur Paris quand on m'a appelé. Au départ, c'était un forcené. Bon, après, on s'est rendu compte que c'était donc un attentat. Quand je suis arrivé sur place, le policier, Jean-Baptiste Salvin, venait de décéder devant mes yeux, vous voyez.
Et malgré l'émotion, Michel Lebouc doit jouer son rôle dans l'opération. Lui qui n'avait jamais imaginé, en devenant maire de cette petite ville de 6400 habitants 2 ans plus tôt, qu'il ferait face à une telle situation.
Quand on est maire, on n'est pas préparé à ce genre d'événement. Forcément, on est OPJ, ce qu'on appelle OPJ, officier de la police judiciaire sur sa commune. C'est nous qui prenons en charge les décisions sur la sécurité de la commune. Et là, heureusement qu'on est aider parce qu'on est complètement paumé. Il faut réagir de bonne façon, il ne faut pas faire de conneries, excusez-moi du terme, mais dans le même temps, on est complètement perturbé.
Il avait à l'esprit l'enfant des policiers âgés de 3 ans, retenu en otage. À ce moment, même assisté des équipes du RAID et de la BRI, il se souvient d'un poids immense à porter sur ses épaules.
On est sur le terrain, on est microté avec le RAID, on entend tout ce qui se passe et à un moment donné, la question elle arrive, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait ? On va être obligé de pénétrer la maison et de charger. Et là, on ne sait pas répondre à cette question-là. Et je n'ai pas répondu à cette question-là. Et là, on est confronté, à un moment de doute et on ne sait pas quoi faire.
Peu après minuit, l'assaut est finalement donné, le terroriste abattu et l'enfant sauvé. Dès lors, une nouvelle phase s'ouvre pour Michel Lebouc, celle de l'après.
Il faut gérer les voisins. Tout le monde avait été confiné chez lui. Il faut reloger les gens, vous voyez. On a eu tous les médias du monde entier qui sont venus. Je faisais des conférences de presse toutes les 2 heures, nuit et jour, pour essayer de les calmer parce que forcément la presse voulait aller chez les gens. Il fallait protéger aussi les familles et puis se protéger nous-mêmes. C'est le rôle, le job d'un maire, entre guillemets, mais que j'aurais jamais pensé faire, quoi.
Veiller au bien-être de son équipe municipale, à celui de sa propre famille et au sien autant que possible. Les 2 années suivant l'attentat, le maire a souffert d'une hyperthyroïdie, une maladie auto-immune diagnostiquée comme étant en lien avec l'attaque. Difficile reconstruction donc, malgré un suivi des services de l'État, le drame reste une cicatrice pour lui comme pour les habitants de Magnanville, avec ce sentiment qui l'accompagne toujours aujourd'hui.
C'est la culpabilité de dire mais pourquoi ? Pourquoi sur ma commune ? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? C'est des situations horribles. Et dans le même temps, à un moment donné, vous vous demandez si j'ai encore la main, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrête ? Et c'est là qu'on n'a pas de réponse à ces questions-là.
Aujourd'hui, les questions de radicalisation sont gérées en lien avec la préfecture, mais le dossier n'est heureusement pas prioritaire dans le quotidien de Magnanville. Et Michel Lebouc n'a pas attendu les préconisations du plan national de prévention de la radicalisation pour prêter une attention particulière à l'éducation, aux activités culturelle et sportive, le cœur du vivre ensemble.
On met en place beaucoup d'événements pour essayer de rassembler les gens dans leur quartier, notamment la fête des voisins, les fêtes de fin d'année. On fait beaucoup d'initiatives et puis j'ai un tissu associatif important à Magnanville, culturel et sportif, ce qui veut dire qu'on essaye de générer tout le temps des événements en ce sens-là. Et moi, c'est ce qui me guide. Certainement plus maintenant, après les attentats, mais aussi période du Covid, forcément. Et c'est mon objectif que les gens se sentent bien à vivre à Magnanville. Vous êtes venu à Magnanville, c'est une charmante petite ville, mon cher journaliste. Voilà.
Le drame de Magnanville, comme les attentats de 2015, ont eu pour effet une remise à niveau des dispositifs de prévention de la radicalisation et de la gestion des attentats terroristes. Au niveau national, c'est le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation qui en a la charge. Au niveau local, ce sont les préfectures en lien direct avec des élus locaux. Un travail de fond qui a porté ses fruits selon Bruno Domingo, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Toulouse-Capitole.
La plupart des collectivités territoriales, et notamment des maires, sont beaucoup mieux préparées aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier, parce qu'il y a eu des effets d'apprentissage. Les questions de terrorisme qui étaient jusqu'à présent plutôt centrées sur Paris se sont en effet diffusées dans un certain nombre de villes moyennes. Et cela a eu des effets pour les maires qui ont dû s'adapter à ce nouveau contexte sécuritaire.
Comment ces maires ont dû s'adapter justement ?
Ils ont d'abord été mobilisés en tant que capteurs, pourrait-on dire, sans doute sous impulsion de l'État, puisque des préfectures et plus largement le gouvernement a cherché à impliquer les maires, notamment dans la remontée d'informations par rapport à des profils de radicalisation, puisque l'avantage des services municipaux et des maires, c'est qu'ils sont proches du terrain. On se retrouve face à des jeunes qui sont souvent isolés, qui peuvent avoir aussi certains troubles en matière de santé mentale. Et donc le maire et toute l'architecture municipale ou intercommunale, tous les professionnels qui travaillent au contact des publics, notamment dans le champ éducatif ou social, eux sont susceptibles finalement d'identifier en tout cas des jeunes qui seraient vulnérables, avec une possibilité d'action pour éviter l'isolement, l'enfermement et le glissement vers ces logiques radicales. Donc les maires sont plutôt bien positionnés, peut-être parfois davantage que les services de renseignement, en tout cas d'une manière différente par rapport aux outils classiques de l'antiterrorisme.
Qui sont les interlocuteurs des maires ? Vous parliez tout à l'heure des préfectures. Quel est leur accompagnement des élus ? Est-ce que c'est un accompagnement uniquement sur les questions de radicalisation ?
Alors oui, les préfectures ont notamment multiplié les sessions de sensibilisation, de formation parfois. Les collectivités locales également, dont les mairies, ont également organisé souvent des ateliers ou des formations visant à mieux comprendre ce qu'on entendait par radicalisation et pour éviter par exemple certains amalgames qui sont susceptibles d'être faits sur ces questions. Donc l'enjeu de formation, il a été central, même s'il ne résout pas tout. Et ensuite, l'enjeu, peut-être, c'est celui de la prise en charge de certains mineurs ou majeurs, mais plutôt mineurs radicalisés, ou de certaines familles qui ont été affectées par ce phénomène. Et ici encore, les communes, ou plus largement les collectivités territoriales, je pense notamment aux conseils départementaux, sont en première ligne parce qu'elles disposent de compétences éducatives, sociales, qui sont utiles dans la prise en charge de jeunes, notamment en voie de radicalisation, et donc dont l'objectif est de prémunir la bascule vers une logique plus violente et donc vers le terrorisme.
Beaucoup de maires, d'élus, parlent de leur fonction comme d'un sacerdoce. Est-ce que cette gestion de la prévention de la radicalisation des attentats terroristes, est-ce que ce n'est pas trop lourd à porter pour les épaules d'un élu local ?
Alors les élus locaux, finalement, ils doivent intégrer aujourd'hui cette dimension, alors, à la fois de prévention, qui peut être finalement inscrite dans une forme de travail social. Quand on est très en amont des phénomènes et face à un public jeune, on est parfois très loin de l'attentat. Mais aussi donc la réalisation d'actions violentes et par exemple d'attentats. Donc les maires doivent articuler aujourd'hui tous ces enjeux. Ils peuvent le faire dans le cadre par exemple de leur stratégie locale de prévention de la délinquance ou de sécurité. Ils peuvent le faire dans en effet l'aménagement de leurs espaces urbains. Donc, ils sont tout à fait bien positionnés. Alors, bien sûr que c'est lourd, ce sont de nouvelles dimensions qu'ils doivent prendre en compte, mais ils l'intègrent progressivement dans ces différents documents, également, par exemple, dans leur PCS, qui sont les plans communaux de sauvegarde, qui intègrent souvent aujourd'hui l'enjeu du terrorisme pour sécuriser des sites ou des activités festives et pour finalement aussi savoir comment réagir en cas de crise si un attentat survenait. Il dispose aussi de policiers municipaux qui souvent patrouillent et sont présents sur l'espace public et qui sont parfois des primo-intervenants lorsque survient un attentat et avec la nécessité parfois pour ces professionnels de police d'intervenir en première ligne.
Bruno Domingo, maître de conférence en sciences politiques, interrogé par Adrien Toffolet, maire, pourquoi faire ? Une série à retrouver également sur le site de France Culture.